Bon matin à vous tous et merci à l'équipe de louanges. Toujours ces beaux chants, n'est-ce pas, qui nous transportent d'avant le goût du ciel. Alors je vous invite ce matin à prendre vos Bibles, tourner à l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 8. Et ce matin, nous continuons notre étude de cette épître tellement importante pour la bonne marche chrétienne. Tellement importante pour notre adoration de Dieu. Et tellement aussi importante pour notre service pour Dieu. Et ce matin, nous sommes dans la section dite pratique du livre, où Paul, après 11 chapitres de doctrine, qui en passant est aussi pratique. Parce qu'il n'y a pas de pratique de la vraie vie chrétienne s'il n'y a pas la base doctrinale. Alors Paul nous parle maintenant de service, de service que nous devrions rendre à Dieu à cause de tout ce qu'il a fait pour nous, et cela en exerçant le don ou les dons spirituels qu'il nous a donnés. Alors la question que nous devrions nous poser ce matin à nous tous, si nous disons que nous sommes un enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par grâce, sauvé par le sang précieux de Jésus-Christ, sommes-nous en train d'exercer notre don, nos dons dans le service du Maître? Ça, c'est la question. Et si la réponse est non, parce que vous ne savez pas quel est votre don, ou pour toute autre raison, j'aimerais vous suggérer que la problématique, ce n'est pas parce que vous n'avez, c'est parce que plutôt, vous n'avez pas mis en pratique Romains chapitre 12 au verset 1. Et tout commence là. L'apôtre nous exhorte d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant qui est saint, agréable à Dieu. Et je peux vous dire ce matin que le croyant qui dit à Dieu, me voici, je me donne entièrement à toi, mon corps, mon âme et mon esprit, prends ma vie et fais de moi l'homme de Dieu, la femme de Dieu que tu veux que je sois. Cette personne-là verra œuvrer, Dieu œuvrer dans sa vie et à travers sa vie pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction des autres. Alors il y a une autre question se pose alors ce matin, ce don de soi, cette entièrement soumission à Dieu, l'avez-vous faite? Parce que tout commence là. Et si vous exercez votre don, vos dons dans le service de Dieu, le faites-vous dans l'humilité et aussi dans l'unité? Avez-vous passé du sacrifice vivant à un service vivifiant qui fait du bien aux autres et, comme j'ai dit, qui glorifie Dieu? Alors ce matin, nous voulons regarder l'exercice des dons spirituels et en particulier celui de l'exhortation. Alors lisons notre texte, Romains chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 3 pour nous remettre un peu dans le contexte. Romains 12, 3, par la grâce, Paul dit qu'il m'a été donné. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordé, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Alors voilà notre thème pour ce matin. L'exhortation, et ce matin nous voulons voir comment exercer fidèlement le don de l'exhortation en passant par l'humilité et l'unité. Alors comment exercer fidèlement ce don? Parce que Dieu a donné des dons, le don de l'exhortation à ses enfants. Comment est-ce qu'on peut l'exercer fidèlement? Alors tout d'abord, dans un contexte de défaite. Et ce, ici, je parle de la défaite spirituelle. Et avant de développer ce thème, j'aimerais tout d'abord vous faire saisir, parce qu'il est très important de saisir la signification de ce mot « exhortation ». Dans l'original, il est traduit par le verbe « parakaleo », qui veut dire « exhorter ». Vous avez aussi le nom « paraklesis », qui veut dire « exhortation ». Et cela veut dire littéralement « appeler » au secours, à côté de soi. Ça, c'est la signification. Appeler au secours, à côté de soi. Et si vous regardez à travers la Bible, dans les contextes dans lesquels ce terme est utilisé, on peut dégager le sens de réprimander, corriger, encourager, fortifier, réconforter. Alors, ce don est utilisé fidèlement par les croyants. Ceux qui possèdent ce don appellent les autres à obéir à Dieu et à sa vérité. Et comme quelqu'un a bien dit, le don de la prophétie proclame la vérité. Le prophète proclame la vérité de Dieu. Le don de l'enseignement explique la vérité de Dieu. Mais le don de l'exhortation appelle les gens à vivre selon la vérité de Dieu. Et nous avons des beaux textes, je vais vous en lire, cite juste quelques-uns, 1 Thessaloniciens 2:12, pas besoin d'y tourner. Paul va parler à ses enfants spirituels, il va leur dire, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant. Voilà un autre mot, Paul a exhorté ses chrétiens, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Voyez comment est-ce qu'il fait appel à ces gens pour les encourager de vivre selon la vérité de Dieu. Hébreux 10:24, un autre beau texte nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, quel beau don, n'est-ce pas? L'exhortation. Quelle grâce aussi d'être utilisé par Dieu dans le but d'appeler les gens, de les interpeller à vivre pour Dieu. Et dans ce même contexte, nous avons un autre mot, paraklesis, exhortation, mais un autre mot, parakletos, qui est utilisé dans le sens d'un avocat, un consolateur, un aide. Et ce qui est intéressant, ce mot est appliqué justement à Dieu. Dieu le Père est appelé le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 14:6, il dit, je vous laisse et je vais faire venir un autre consolateur quand je m'en vais. Et aussi, il est appelé notre avocat. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et le Saint-Esprit aussi, le Seigneur dit, il va venir, le consolateur viendra. Alors, on voit aussi, c'est un encouragement pour nous parce que dans ces textes ici, on voit comment est-ce que Dieu aussi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre dans ce ministère d'exhortation pour nous aider, pour nous encourager. Ils sont à côté de nous, ils sont là, présents, afin que nous puissions vivre comme nous devrions vivre. Mais revenons à nos moutons. Revenons à ce don de l'exhortation. Comment utiliser fidèlement le don de l'exhortation, comme je dis, dans le contexte d'une défaite. Et vous savez qu'est-ce qui cause la défaite dans la vie chrétienne? Vous le savez tous, n'est-ce pas? C'est le péché. C'est le péché qui nous empêche de vivre comme nous devrions vivre. C'est le péché qui nous enveloppe si facilement, comme dit le texte dans Hébreux chapitre 13, 12 plutôt, verset 1. C'est le péché qui brise la communion avec Dieu. Ésaïe 59, 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché qui attriste le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le péché qui peut même éteindre l'Esprit. Le péché qui a des conséquences graves, Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Alors le péché, comme je vous dis, empêche les croyants de vivre selon la volonté de Dieu, qui selon Romains 12, 1, est bon, agréable et parfait, Romains 12, 2. Et si c'est votre cas ce matin, sachez que Dieu a pourvu une remède. Une remède pour cela, c'est la repentance. Et nous avons, pendant le repas du Seigneur, on a parlé de cela. Le croyant qui tombe dans le péché et qui le regrette sincèrement peut tout simplement le confesser. Notre frère Jean-Guy nous a entretenu là-dessus. La confession. Confesser à Dieu. Dieu n'est pas vengeur ni rancunier, mais compatissant. Psaume 103, 13 nous dit ceci: comme une père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et dans ce cadre de main qu'il possède, il est miséricordieux. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est le mécanisme pour le péché chez le croyant. C'est sûr qu'on récolte ce que nous semons, et souvent Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, mais la repentance et la confession amènent toujours le pardon pour la purification, qui par la suite permet au croyant de se relever et de vivre comme il devrait vivre. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a, pour X raisons, de la rébellion au lieu de la repentance? Qu'est-ce qui se passe quand le cœur, au lieu d'être brisé face au péché, s'endurcit face au péché? Qu'est-ce qui se passe au lieu d'avoir la victoire, il y a la défaite? Alors voilà le pourquoi de l'exhortation. On ne peut pas appeler 911, ça ne fonctionnera pas. Mais nous pouvons appeler au secours à côté d'eux, dans le but justement de reprendre et restaurer le frère ou la sœur qui vit dans la désobéissance. C'est que ce n'est pas facile, parce que qui dit reprendre, dit aussi la confrontation. Et ça, ce n'est pas facile. J'aimerais vous donner trois obstacles courants qui font obstacle justement à l'utilisation fidèle de l'exhortation dans le contexte de quelqu'un qui veut justement reprendre un frère, une sœur. Tout d'abord, il y a un obstacle qui vient de la personne réprimandée. Ah, vous n'avez pas le droit de me juger. Et la personne se réfugie derrière Matthieu 7, 1. Ne jugez pas afin que vous soyez jugés. afin que vous ne soyez point jugés. Comment est-ce qu'on va réagir à cela? Mais il faut bien saisir le contexte de Matthieu 7.1. Ici, le texte parle de condamner. Nous n'avons pas le droit de condamner qui que ce soit, parce que comme quelqu'un dit, quand tu pointes un doigt, il y a trois autres qui reviennent vers toi. On ne peut pas condamner les autres parce que nous sommes tous des pécheurs et comme quelqu'un a mentionné ce matin à la table du Seigneur, il n'y a personne qui est parfait. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas arrêter là. Dans ce même chapitre, Matthieu 7, des versets 4 et 5, Dieu nous donne justement la recette et qui nous parle justement de l'exhortation. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Mais écoute bien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous voyez, Dieu s'attend justement à ce que ce don de l'exhortation soit utilisé. Alors, premièrement, on s'examine, on se purifie, on enlève la poutre qui est dans notre œil. Et ça nous permet alors de discerner. C'est le discernement ici qui est en cause. Et ensuite, on peut exhorter en reprenant et en restaurant la personne en cause. Deuxième obstacle. Il y a des personnes qui disent, mais ce n'est pas dans ma nature de faire cela. Et j'ai peur. Je ne veux pas blesser l'autre personne. J'aimerais mieux de ne pas intervenir. Proverbe 27, 5, 6 nous dit ceci, « Mieux vaut une réprimande ouverte, voyez, une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Et les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Si vous aimez vraiment la personne, le vrai amour se soucie de l'autre, et même si cela n'est pas agréable pour lui ou pour elle, le vrai amour va nous pousser justement à intervenir. Soyons pas comme Caïn, quand il a tué son frère Abel et Dieu a dit, « Caïn, où est ton frère? » Et comment il a répondu, « Suis-je le gardien de mon frère? » Chers et sœurs, nous sommes les gardiens de nos frères et nos sœurs. Et troisièmement, troisième obstacle, on entend souvent dire, « Oups, ce n'est pas ma job. » Ça, c'est la job des anciens. C'est les autres qui sont obligés d'intervenir. Galates 6.1 nous dit ceci, « Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Certes, c'est les anciens qui devraient procéder à ce don, de l'exhorter. Et ça fait partie de le boulot. Ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable, mais ça fait partie de le boulot. Mais sont-ils les seules personnes spirituelles dans l'Église? Vous, ce matin ici, qui marchez dans l'Esprit, qui êtes remplis de l'Esprit, qui présentez le fruit de l'Esprit, vous êtes aussi qualifiés pour ce travail. Ma prière à Dieu pour nous tous, que Dieu remplisse son Église de tels hommes et de telles femmes. Un dernier texte, Matthieu 18, 15, « Si ton frère a péché, va et crois, reprends-le entre toi et lui seul. » C'est un texte qui est utilisé souvent dans la discipline dans l'Église. Mais les commentateurs qui nous disent que la première démarche n'implique pas nécessairement les anciens, mais un frère, une sœur qui possède justement ce don de l'exhortation et qui va à côté justement de ce frère ou de sœur qui est dans le péché, dans le but de le reprendre et de le restaurer. Juste donner quelques conseils dans cette démarche. Quand on veut exercer le don de l'exhortation, surtout dans un contexte de défaite, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui n'a pas la victoire dans le péché, tout d'abord, c'est notre attitude. On ne doit pas condamner le pécheur, on ne peut pas faire cela. Mais notre attitude dans cette intervention tellement importante devrait être plutôt une attitude de brisement, de tristesse à cause du péché qui déshonore Dieu et qui brise des vies et qui même affecte la collectivité. Du simple fait, comme nous avons lu ce matin, que nous sommes membres, tous membres les uns les autres, votre péché m'affecte et ma péché vous affecte. Mon péché vous affecte. 1 Corinthiens 12, 26 dit ceci, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si vous lisez les prières de repentance des grands hommes de Dieu, les hommes comme Néhémie, les hommes comme Daniel qui vont devant le Seigneur et qui vont intercéder, jamais qu'ils vont dire vous, ils vont dire nous avons péché. À nous la confusion de face. Nous n'avons pas observer les commandements de l'Éternel. Ils sont conscients que c'est le péché collectif, le péché de un affecte le tout. Alors, si on intervient, soyons de ceux qui sont humbles, brisés devant le Seigneur à cause justement du péché qui déshonore Dieu et qui brise les vies. Deuxième chose, deuxième conseil, on amène bonne attitude, mais aussi l'avertissement. On ne peut pas condamner le pécheur, mais on peut condamner le péché. Et là, vous êtes bien équipés avec la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Et que cette parole-là juge les pensées, les sentiments du cœur. C'est comme chirurgien, habile, et cette parole-là bien appliquée va justement faire la job. J'ai mis quelques textes ici, expose, qui va exposer aussi la laideur du péché. Si le péché est d'ordre sexuel, disons, il y a des textes comme 1 Corinthiens 6, 18 qui nous dit « Fuyez la débauche ». Celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et Hébreux 13, 4, Dieu jugera les débauchés, les débauches et les adultères. Si on parle de l'ivrognerie, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Proverbe 21, le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Si il est question du mensonge, on est équipé, Éphésiens 4, 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Colossiens 3, 9, ne mentez pas les uns aux autres. Proverbe 6, 17, Dieu est la langue menteuse, etc., etc. Alors, comme on dit souvent, quand on entend souvent parler, on dit de quelqu'un, il y a un plaster là, pour tous les bobos. Mais la parole de Dieu est pareille. Chaque bobo occasionné par le péché, il y a un plaster. Et nous pouvons être bien équipés justement pour l'appliquer. Et finalement, il ne faut pas négliger l'affermissement. On est là pour réprimander, mais aussi dans le but de restaurer. D'encourager le frère à quitter, abandonner le péché, le frère ou la sœur, et de vivre comme il devrait vivre, comme elle devrait vivre. Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les laisse obtient miséricorde. Quelle belle promesse qu'on peut présenter à quelqu'un. Dieu est miséricordieux. Avoue ton péché, délaisse-le. Il va te pardonner. Puis il va aussi te donner la grâce. 1 Pierre 5, 5, oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui sont assez humbles pour confesser leurs péchés obtiendront sa merveilleuse grâce qui va leur permettre alors de marcher comme ils devraient marcher. Et même en dehors de l'Église, parce que c'est dans le contexte d'une défaite dans l'Église, quelqu'un qui veut faire une sœur qui vit dans le péché, mais non, même en dehors, ce don aussi pourrait être exercé. Et vous savez, je pense ici à Actes chapitre 2, ou est-ce que c'est le jour de la Pentecôte et Jérusalem est rempli justement de sortes de monde de partout et le Saint-Esprit descend sur les croyants et il commence à parler en langue et le monde s'accroît. Il dit ces hommes sont pleins de vin doux. Et là, le Seigneur va utiliser Pierre pour livrer un serment puissant. Et les cœurs sont vivement touchés. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Ils sont convaincus du péché. Et Pierre va répondre, repentez-vous. Et qu'est-ce qu'il va dire plus tard? Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Vous voyez le don en action, même parmi les non-sauvés, il les exhortait. Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous savons la suite. 3000 âmes sauvées dans une même journée. Quel beau don, hein, n'est-ce pas, l'exhortation. Appelez les gens d'être réconciliés avec Dieu et de vivre pour lui, par lui. Juste un dernier mot. Exercer ce don, il y a une implication aussi derrière cela. Celui qui exhorte doit obligatoirement avoir une vie qui est conforme à ce qui sort de sa bouche. Sinon, on va passer pour un hypocrite. Et s'il y a quelque chose qui va repousser les gens, parce qu'exhorter, c'est de dire, aller à côté, pour secourir, dans le but de ramener la personne, les attirer vers Dieu. Mais c'est quelque chose qui va repousser les gens. C'est quelqu'un qui exhorte et dont la vie n'est pas conforme à ce qu'il est en train de dire. Elle n'a pas ça l'hypocrisie. Et que le Seigneur nous garde, vous garde et me garde aussi de ce péché grave. Alors, deuxièmement, on peut utiliser le don de l'exhortation dans le contexte d'une défaite, mais aussi dans le contexte du découragement. Dans le contexte du découragement. Et qui parmi nous n'a pas, à un moment donné, goûté justement à cela? Découragé. L'âme abattue. Tout semble noir. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et même, peut-être, on commence à remettre en question notre spiritualité. Comment se fait-il que... Soyez pas surpris de cela. N'êtes pas seul. Même des grands hommes de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, là, même des grands hommes de Dieu, ils ont eu le moment de découragement. Et je vous donne juste quelques exemples rapidement. Moïse, écrasé par le fardeau du leadership des enfants d'Israël, une gang de chioles. Qu'est-ce qu'il dit? Nombre 11, 14, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je ne veux pas voir mon malheur. » Découragé, ben raide, comme on dit en bon québécois. Josué, devant la faiblesse d'Israël, Israël est allé attaquer une ville, une petite ville, Haï. Ils ont subi une défaite cuisante. Et là, Josué est déboussolé. Là, il voit la faiblesse de son armée devant lui. Il va dire ceci, il va déchirer ses vêtements, il va se prosterner jusqu'au soir, le visage contre terre. Et ça, c'est un signe justement de découragement extrême. Il va couvrir sa tête de poussière. Il va dire à Dieu, Seigneur éternel, pourquoi? Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Pourquoi? Pourquoi? Découragé. Élie, dans un moment de fatigue extrême, il vient de livrer un combat contre les faux prophètes de Baal. Et il a remporté la victoire. Mais après cela, il y a eu des menaces de cette femme, Jézabel. Et le texte nous dit qu'il s'en va dans le désert, il s'enfuit pour sauver sa vie. Et après avoir fait une journée de marche, il est fatigué, il s'assit sur un genêt, mais demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je veux mourir. Découragé. Job, grand homme de Dieu, a dit ceci, mon âme est dégoûtée de la vie. David, mon âme est abattue au-dedans de moi. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand le Seigneur s'approche, il dit, de quoi parlez-vous? Et vous entraînez-vous? Vous avez l'air attristé. Ils étaient complètement à terre. J'en passe. Et peut-être ce matin aussi, vous pouvez vous identifier à Moïse, peut-être. Quelques-uns de vous, peut-être ce matin, vous portez un fardeau. Fardeau lourd, pesant. Et vous savez qu'un fardeau qui est lourd et pesant, c'est justement le salut de nos enfants, de nos êtres chers. Et peut-être ça fait des années que vous priez pour ces personnes que vous aimez et vous ne voyez pas. Il semble qu'il n'y a rien qui se passe. Ça vous pèse lourd sur le cœur. Et ça peut aussi amener le découragement. Peut-être aussi ce matin, il y a la faiblesse. Vous êtes découragé face à votre propre faiblesse dans votre lutte avec le péché. Combien de fois le même péché revient et revient et revient? Ça fait des années et des années qu'on lutte. Et ça dure un petit bout de temps, on semble avoir la victoire, puis après ça en tombe encore dedans, devant le Seigneur. Pas encore. Pas être découragé à cause de cela. Je pense à l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, verset 24. Il est dans cette situation. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux et le mal que je ne veux pas, je le fais, misérable que je suis. Paul est découragé. Qui me délivrera de ce corps de mort? Bien, vous êtes tout simplement aussi fatigué. Vous savez, la vie amène toutes sortes de problématiques. Des fois, c'est le fatigue mentale, fatigue physique, les exigences de la vie. On peut faire une burn-out, on peut faire des dépressions, on peut avoir des idées noires. Même peut-être aussi, ça peut être des rêves non réalisés. Proverbe 13:12 nous dit ceci, un espoir différé rend le cœur malade. Alors la question se pose ce matin, si vous êtes découragé, Proverbe 18:14, l'esprit abattu. L'esprit abattu, découragé, qui le relèvera? Et ça, c'est ce que le ministère de l'exhortation va faire. C'est pourquoi Dieu a mis ce don dans l'Église. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, on va être découragé. On aura besoin justement de ce don de l'exhortation qui soit utilisé en notre faveur. Alors, c'est un don qui est utilisé, comme nous avons vu, lors d'une défaite, en réprimande et en restant. Mais quand il s'agit de la découragement, on cherche à relever et restaurer. Ça, c'est le but. Relever et restaurer. Comment est-ce qu'on fait cela? Ésaïe 54 nous dit ceci, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Alors, dans un premier temps, on utilise la parole de Dieu pour relever et restaurer le frère ou la sœur qui a l'âme justement abattue à cause du découragement. Et la parole de Dieu est une arme puissante, même pour réprimander et restaurer, oui, ça fait la job, mais aussi pour justement relever et restaurer, oui, ça fait la job aussi. Je pense à ce beau texte dans Jérémie 15, 16, il a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les et dévoré. Ça, c'est Jérémie. Dans un contexte où il aurait pu être complètement découragé. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées et ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Quand la parole de Dieu est entrée dans son cœur, là, ça a chassé toute l'obscurité, toutes les idées noires. Il a dit, ça m'a fait du bien dans ce contexte ici. Alors, qu'importe notre source de découragement, Dieu nous laisse cette parole qui nous aide dans ces moments difficiles. La promesse de sa présence avec nous. Dieu n'est-il pas notre paraclétos? Celui qui est là, appelé au secours à côté d'eux. Et dans sa parole, il y a tellement de beaux textes où Dieu nous garantit la promesse de sa présence. C'est ce texte qu'on connaît tous, Ésaïe 41:10. Je ne crains rien car je suis avec toi. Dieu le Père. Matthieu 28:20, Jésus va dire à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est là tous les jours, à côté d'eux. Et Jean 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. On n'est pas seul, on n'est pas orphelin. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dieu le Saint-Esprit. Alors Dieu est avec nous ce matin. Dieu est avec vous. Deuxièmement, dans le découragement, nous avons la promesse de sa puissance. La parole de Dieu qui est puissante nous garantit aussi la promesse de la puissance de Dieu que Dieu va déployer pour nous et très souvent aussi en nous pour nous faire justement être capable de faire face à la situation. J'ai cité Isaïe 41:10, le texte continue, je te fortifie. Je te fortifie, Dieu dit. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et Michée, le prophète, dans un contexte encore extrêmement difficile, il a dit ceci, « Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. » Et Paul va dire à Timothée, « L'Esprit que Dieu nous donne ne nous rend pas timides. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Et surtout, la promesse de sa paix. Qu'importe tout ce que la vie peut nous amener, même au milieu des tempêtes qui parfois sont tellement difficiles et qui cherchent à nous faire sombrer dans le découragement, Dieu promet sa paix, Isaïe 26:3, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Et le verset 4 continue, confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité. Pour un moment, mais toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles, inébranlable. Et quand les tempêtes de la vie viennent, cherchent à nous écraser, à nous faire submerger, le rocher des siècles reste là, inébranlable. Psaume 119:165 dit ceci, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. La présence de Dieu, la puissance de Dieu, la paix de Dieu, toutes des belles choses dans la parole de Dieu. Que celui qui exhorte peut amener justement à côté de l'autre pour l'encourager. Hébreux 13:6. L'auteur donne cette exhortation-là. Je peux dire avec assurance. Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et je pense que Steve a fait référence à cela ce matin. Pourquoi avoir peur? On a chanté. Le Seigneur est mon aide, mon paraclétos, il est là. Que peut me faire un homme? Bien sûr, ce don aussi, il y a un côté pratique. On peut relever par justement la parole, mais il y a le côté pratique aussi. Pour les gens, je prends juste le contexte de quelqu'un qui porte un fardeau. Vous pouvez vous impliquer dans la vie de cette personne. Surtout si c'est un fardeau en ce qui concerne le salut des âmes, de l'être cher. Vous pouvez dire à la personne, mais je vais prier pour vous. Et je vais aussi prier avec vous. C'est tellement encourageant de savoir que vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul à porter les fardeaux. Galates 6 nous dit ceci, portez les fardeaux les uns les autres. Et c'est pourquoi Dieu a mis ce don de l'exhortation dans l'Église. Parce que dans ces moments-là, quand on est écrasé, quand c'est difficile, combien c'est réconfortant de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui sont là, à côté d'eux, pour nous aider à porter ces fardeaux. Pour aussi faire des choses pratiques, pour alléger justement le fardeau. On peut donner aussi des conseils. Si vous voyez que la personne est en train de mal gérer justement sa vie, on peut l'exhorter en disant, mais il faut déléguer. On pense à Moïse écrasé par un fardeau, Dieu a donné les anciens justement pour l'aider à porter la charge et ainsi de suite. Et quand on dit délègue, mais on devrait être aussi prêt à s'impliquer nous autres même de façon pratique dans la vie des personnes. Et troisièmement, je finis avec ceci. L'utilisation de l'exhortation peut s'inscrire dans le contexte d'une défaite, du découragement, mais aussi dans le contexte d'un deuil. Et ça, c'est un qui est extrêmement important à cause d'une perte quand on vit des grosses peines. Et je prends l'exemple ici de Job. c'est un cas extrême, mais ça illustre bien le point que je veux faire. Dans une même journée, Job a perdu ses richesses, il a perdu ses enfants, 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Sa santé a été frappée par un ulcère malin. Et le texte nous dit que Job prit un tessan pour se gratter et s'assit sur la cendre. Il était dans le deuil. Et quand ses amis sont venus de loin, ils sont restés auprès de lui. Il n'a rien dit. Parce qu'il voyait combien sa douleur était grande. Et ça, c'est la réalité de la vie. On vit dans un monde déchu. Tout est en dégradation. Nous perdons nos cheveux. Perdons nos dents, pour perdre nos maisons, nos emplois, notre santé. Certaines de ces choses, on pourrait les remplacer. Des fois, on devient presque comme un homme, une femme bionique. Mais si on vit assez longtemps, c'est vrai que la réalité de la vie, on va perdre un être cher. Ça va être peut-être une père, une mère, un enfant, un fils, une fille, une frère. Et là, on va être dans le deuil, on va être dans la souffrance, on va avoir le cœur peiné. Et peut-être ce matin, il y a quelques-uns, vous pouvez identifier avec ce que je suis en train de dire, parce que vous avez passé par là. Vous savez c'est quoi de perdre un être cher. Et vous avez besoin de ce contexte ici, maintenant. Pas de la confrontation, ça c'est pour le péché. Mais de la consolation. Ça c'est le but aussi de ce don, celui qui exhorte, d'être capable d'aller à côté d'eux au secours et de consoler le frère ou le sœur qui est dans justement la souffrance. Et je veux vous donner juste simplement, rapidement, trois aspects de cela. Parce que les amis de Job sont allés le consoler. Mais ils ne se sont pas pris de la bonne manière. Parce que Job, il a dit, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Ou bien dans la version anglaise, misérables. Ils n'ont pas été bien belles. Okay. Alors, je vous donne 3 étapes à respecter. Tout d'abord, on peut consoler en étant présent. Juste en étant présent. Votre présence à côté de celui ou celle qui souffre est une grande source d'encouragement pour eux dans de tels moments. Parce que dans de tels moments, les individus ont besoin de ressentir qu'ils ne sont pas seuls. Et juste par la présence, ça peut encourager la personne. David, dans son 23, dit ceci, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et dans le texte original, c'est me console. La présence de Dieu était là, c'est une consolation. Deuxièmement, on peut consoler en plaignant. Pas se plaindre, mais plaindre. C'est une grosse différence. Celui qui plaint l'autre démontre ainsi qu'il n'est pas indifférent à la souffrance de l'autre. Et ça, c'est le moment de ne pas avoir peur de laisser apparaître les sentiments. C'est le temps. L'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et même Jésus a laissé paraître ses sentiments. Tombeau de Lazare, nous lisons ceci, Jésus pleura. Et c'est intéressant, le mot hébreu pour consoler, dans l'original, veut dire laisser sortir des soupirs. C'est comme ça que tu montrais à quelqu'un justement que tu compatissais avec la personne, tu laissais sortir des soupirs, tu t'es montré tes émotions. Alors un regard de compassion, des larmes, pas de crocodile, mais des vraies larmes. Tenir la main, un câlin si c'est approprié, sans toutes les manières de dire à la personne, je ne suis pas seulement avec toi, mais je compatis avec toi. Et finalement, on peut consoler aussi par les paroles. Souvent, les 2 premières sont suffisantes, justement, pour laisser la personne savoir que oui, je suis avec toi. Mais il y a une source de consolation qui est vraiment importante pour nous, les croyants. Surtout dans le contexte de la perte d'un être cher, c'est la résurrection. Et quand Marthe et Marie sont complètement, complètement atteints, Jésus a dit ceci, « Ton frère ressuscitera. » Ça, c'était la consolation qui voulait les amener à saisir. Job avait cette même consolation. Il a dit ceci: après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Quelle consolation. Asaph a dit ceci: tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Vous savez ce beau texte dans Thessaloniciens 4:16 où le Seigneur va revenir et nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est la résurrection. Et là, Paul ajoute à ces chrétiens: il ne faut pas que vous vous affligiez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Non, non. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. La résurrection. Et si vous n'êtes pas certain que la personne qui est partie est sauvée, il y a aussi une consolation de savoir que mais Dieu est juste. Il ne fait pas d'erreur. Il est souverain, on laisse les choses entre ses mains. Un dernier texte, peut-être ce matin vous êtes parmi nous et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Je vais parler de service en utilisant le don de l'exaltation, mais si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez même pas commencer à le servir. Alors l'invitation que je vous lance ce matin, ce serait de donner votre vie au Seigneur. Le croyant doit le faire, Romains 12, 1. Mais aussi le pécheur commence là, par la repentance, même porte d'entrée, regrettant sincèrement son péché, et en se tournant vers Dieu pour le pardon de son péché. Vous savez que dans une semaine prochaine, on va célébrer la Pâque. Mais qu'est-ce que c'est la Pâque? C'est-tu des lapins en chocolat? C'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour les pécheurs. Et ce matin, si vous n'êtes pas sauvés, nous, pas moi, mais nous, les croyants de l'église de Cap-la-Madeleine, nous aimerions vous laisser avec un beau texte, un beau dernier texte, 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait, vous voyez, exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et en étant réconciliés, vous pouvez commencer justement à le servir. Et qu'est-ce qu'on sait de ce que Dieu veut? Peut-être qu'il fera de vous un puissant consolateur avec le don de l'exhortation. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu qui nous console même dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont affligés. Seigneur, dans ta souveraineté, tu as donné des dons différents à ton peuple. Et chacun de nous avons un rôle à jouer dans le corps de Christ pour ta gloire et pour le bien-être de nos frères et nos sœurs. Alors sensibilise-nous à cette responsabilité que nous puissions être de ceux qui prennent ta parole au sérieux, qui le mettent en pratique. Que nous puissions aussi avoir une cœur pour ceux qui sont perdus. Que nous puissions aller auprès d'eux, à côté d'eux, pour les exhorter d'être réconciliés avec Christ. Nous te bénissons notre Dieu et nous te demandons que tu nous sépares avec ta bénédiction. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Ouais. Hein?